L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Novembre 1924, dans le Finistère, sur la pointe de la Bretagne. La petite ville de Douarnenez est un port de pêche connu pour son industrie de la sardine. C'est que la baie regorge de ses précieux poissons, un véritable trésor. La pêche y est facile car la baie est protégée des tempêtes. Et qui dit sardine ? Dit boîte. Ça a commencé en 1853 avec une première conserverie. Depuis lors, les conserveries se sont multipliées et avec elles, le nombre de marins pêcheurs. Pendant que les hommes pêchent, les femmes mettent les sardines en boîte. En ce début de siècle, elles sont plus de 2000 à travailler dans les conserveries des trois ports que compte Douarnenez. Un travail éreintant. On appelle ces ouvrières les pennes sardines. Ce qui veut dire en breton « tête de sardine ». Ouais. De profil, leur coiffe blanche traditionnelle rappelle la tête d'une sardine. Vêtues de la célèbre coiffe, d'un tablier et de sabots, elles font tourner ces usines où s'alignent des milliers de sardines. Leur travail consiste à vider, nettoyer et mettre en boîte le précieux poisson qui a fait la fortune des propriétaires de conserveries. Mais pas celle des ouvrières qui travaillent dans des ateliers mal aérés, saturés d'odeurs de poisson et de saumure. Leurs mains continuellement trempées par le sel et le poisson, usées prématurément par les coupures. Leur corps marqué par les brûlures lors de l'ébouillantage des poissons. Leur dos mis à rude épreuve par le travail debout. Des journées qui peuvent durer 16 heures d'affilée en fonction de la pêche, de jour comme de nuit. La sardine n'attend pas. Elle doit être mise en boîte au plus vite. Quand les bateaux de pêche reviennent chargés à ras-bord, les pennes sardines entrent en action, inlassablement, pour un salaire de misère. Mais pas ce matin du 21 novembre. Le bruit se répand comme une traînée de poudre. Les femmes de la conserverie Carnot ont refusé de se mettre au travail. La révolte est en marche chez les sardinières. Nous sommes le 21 novembre 1924. Il est 7h30 et c'est l'heure H de mon histoire. Les pavés de Douarnenez résonnent du bruit des sabots des pennes sardines. Toutes scandent le même slogan. Pempre et à lavo. Un franc par heure de travail, reprennent-elles en chœur. Un franc de l'heure. Non mais et puis quoi encore ? S'indigne René Bézier, le patron de l'une des plus importantes conserveries de la ville, en entamant son traditionnel œuf à la coque. La valorisation des heures supplémentaires ? Et pourquoi pas un syndicat tant qu'on y est, hein ? Siffle-t-il tout en terminant son petit déjeuner. En attendant, la sardine s'abîme. Oh, quel gâchis! Ces femmes vont vite se rendre à la raison et rejoindre leur atelier. Des femmes qui font grève. Voyez-vous ça, ricanent certains patrons. D'autres, plus inquiets, ont peur. Ces grévistes pourraient contaminer les autres ouvrières. Et c'est précisément ce qui va arriver. Le 25 septembre 1924, ce sont toutes les conserveries de Douarnenez qui entrent en grève. Les ouvrières battent le pavé et scandent « Pempre et à lavo ». Nous voulons un franc de l'heure. Il faut dire qu'une heure de travail rémunérée à 0,80 francs ne leur permet même pas d'acheter un kilo de farine. Ces femmes n'ont plus peur. La jeune Marie, par exemple, âgée de 15 ans, dont déjà 3 ans passée dans une conserverie avec sa mère, le clame haut et fort. C'est la misère qui nous amène ici dans la rue. Pour la plupart de ces femmes, la lutte des classes est un concept lointain. Elles n'ont que la conscience d'un quotidien fondé sur une injustice profonde. La politique, elles ont toujours laissé ça aux hommes et aux riches. Mais plus maintenant. De manière spontanée, elles défilent en chantant sur les trois ports que compte la ville. Elles sont bientôt rejointes par les hommes. Les marins débrayent à leur tour. Les bateaux restent obstinément dans le port du Rosmeur. À présent, les conserveries sont désertes. Les feux ne brûlent plus sous les chaudrons de friture. Les couteaux à sardines ont parfois été jetés au sol dans la précipitation. Des montagnes de boîtes vides gisent abandonnées dans les hangars. Cette contestation menée par les femmes a entamé un bras de fer avec le patronat. Rien de vraiment prémédité là-dedans. Juste l'épuisement des corps et des esprits. Un vent de liberté et de joie balaye la rade de Douarnéné. On chante, on plaisante aussi. Il faut soutenir et tenir la longueur. Car le combat risque de durer. Les patrons ne veulent même pas écouter les revendications des ouvrières. Dans les rangs des sardinières, on ne lâche rien. Pourtant, il y a de quoi s'inquiéter. Même Yvonne, la première à inventer les chants de la résistance, ne peut s'empêcher de se confier aux autres quand l'ardeur retombe. Le soir, par exemple, quand il faut coucher les enfants. Notre paix nous permet à peine de passer le mois, après il n'y a plus rien, rien du tout. Et si l'homme ne retourne pas pêcher, ben, ce sera la famine pour les familles, ni plus ni moins. Dans les esprits, l'angoisse est là, malgré les rires et les chants. Qui va s'inquiéter de notre sort ici au fond du Finistère, hein? Personne, entend-on chez celles qui sont les plus proches de la misère. Eh bien non. Non, les sardinières se trompent. Très vite, leur résistance trouve un écho à Paris et dans toute la France. Les médias se sont emparés de l'affaire. Cette grève trouve même un écho jusqu'à Moscou. Les soviets voient là une occasion inédite de faire parler d'un très jeune parti français, le Parti communiste. Il existe à peine depuis 4 ans en France. Alors quand les groupes de femmes qui tiennent désormais les quais des 3 ports de Douarnéné, Tréboul, le Rosmeur et le Port Ru brandissent des drapeaux rouges en tête de cortège, pour le patronat, c'en est trop. Que fait la police? Et surtout, que fait le maire de Douarnéné, ce satané Flanchec? La police, c'est pas compliqué. Elle est débordée par ces milliers de grévistes qui bloquent tout. Quant au maire, Daniel Le Flanchec, c'est encore mieux. Il organise les soupes populaires pour assurer la subsistance de ses grévistes. Et il excite les esprits par des discours en faveur des grévistes, ni plus ni moins. Mais ce matin, les patrons comptent bien lui faire entendre raison. Réunion à la mairie entre Daniel Le Flanchec et l'incontournable René Bézier comme représentant du patronat. Assis l'un en face de l'autre, le patron dévisage ce « maire rouge », comme il aime le qualifier, un communiste. Comment a-t-il bien pu se faire élire? C'est simple. À force d'insuffler des idées absurdes dans les esprits simples de ses ouvrières. Assis dans son fauteuil de maire, Le Flanchec prend un malin plaisir à retrousser ses manches face à ce Bézier, histoire de mettre en évidence le tatouage qu'il arbore sur sa main droite. Il tient en 3 points ce tatouage. Les 3 points de mort aux vaches. Le signe de ralliement des anarchistes et des opposants à un état oppresseur. Et puis, il dévisage Bézier de son unique œil. La légende raconte qu'il s'est arraché un œil pour échapper à la conscription. Que comptez-vous faire, monsieur le maire, pour rétablir la situation? S'enquiert le patron, en marquant une hésitation sur le mot maire, histoire de bien lui rappeler ce qu'il pense de cet objecteur de conscience communiste et anarchiste. Et vous, que comptez-vous faire, monsieur Bézier? Lui répond Le Flanchec. Si c'est de cette augmentation dont vous parlez, il est très clair chez tous les patrons de conserverie qu'il n'en est absolument pas question. Où est-ce que vous vous croyez? À Moscou? À ces mots, Le Flanchec abat son poing sur la table. Arrêtez avec vos insinuations. Il n'y a pas d'idéologie qui tienne dans cette ville. Vous vivez de la sueur de ces femmes. C'est inadmissible. Leur salaire est parfaitement indigne. Vous les condamnez à la misère et vous le savez très bien. Le borgne, comme il appelle le maire, est du côté des peines sardines, se désespère Béziers auprès des autres patrons. Mais nous ne lâcherons rien, répète-t-il en boucle, dans son bureau qui domine sa conserverie désespérément vide. De l'extérieur leur parviennent les chants des sardinières qui emplissent les rues de Douarnenez depuis plus de 2 semaines. La complainte des sardinières, ou l'internationale, semble tourner en boucle dans les rues de la ville. Parmi les grévistes, du renfort est arrivé. Des membres du Parti communiste comme Lucie Colliard, Charles Tillon et des syndicalistes. Ils organisent le comité de grève, ainsi qu'une collecte de fonds pour tenir. Ils font le relais médiatique dans les grands quotidiens français. « Non, nous ne sommes pas seuls », scandent à présent les peines sardines. Elles sont devenues des figures connues de toute la France, à tel point que l'intransigeance du patronat commence à inquiéter les plus hautes autorités de l'État. Parmi les sardinières, des figures se détachent, comme Joséphine Pancalé, veuve et mère de 2 enfants. Tous les jours, elle organise, motive et informe les autres peines sardines, comme ce 17 décembre, après des semaines de grève. « Aujourd'hui est un jour important », clame-t-elle, juchée sur des caisses à poissons, empilées sur le quai du Rosmeur. Parmi la foule des peines sardines, les chants se sont tus. Une délégation de peines sardines est à Paris avec Flanchec, Béziers et consorts pour négocier. Même au-dessus, ils en ont assez. Ah, c'est qu'ils ont peur. À Camaret, Audierne, Concarneau, sur tout le littoral breton, les conserveries entrent en grève. Oui, la situation commence à inquiéter le ministre du Travail, Justin Godart. Il tente une médiation le 17 décembre à Paris, mais la réunion entre les deux parties tourne court. La délégation de peines sardines, accompagnée par Le Flanchec, rentre les mains vides à Douarnenez. Le patronat ne veut rien négocier, toujours le même argument. La présence d'étrangers dans cette grève. Oui, par étrangers, il faut entendre des militants communistes. Où sont passés les patrons, demande-t-on chez les grévistes. Ils sont restés à Paris. Sans doute, aller voir leur banquier ne peut s'empêcher de plaisanter Joséphine. Elle se trompe. Béziers et d'autres patrons sont restés à Paris pour une toute autre raison. Ils sont allés voir un spécialiste de la question des grèves. Sa technique, elle est très simple. Contre rémunération du patronat, son équipe et lui mettent au pas les grévistes par la violence et l'utilisation de fausses rumeurs. On les appelle des briseurs de grève. Léon Régnier emploie une équipe de repris de justice et de petits voyous parisiens qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres conflits sociaux. Ils sont armés et surtout, ils détestent les communistes, les « rouges ». Béziers et les autres patrons ont un plan. Il est très simple. Tenir jusqu'au 3 janvier, date à laquelle la saison de la pêche à la sardine redémarre. Il est persuadé que les hommes reprendront la mer. Ils n'auront pas le choix. Et ils ne voudront pas que les femmes gâchent la pêche. Les hommes de Régnier, les briseurs de grève, entrent dans Douarnenez et tentent de se mêler à la population. Mais dans les rangs des grévistes, on veille. Lucie Colliard, membre du Parti communiste, est venue en renfort. Elle a organisé et structuré la grève des sardinières. Elle connaît la chanson. Les jaunes, comme on appelle les briseurs de grève, vont tenter d'affaiblir le mouvement. Et elle ne se trompe pas. On signale déjà des têtes inconnues à Douarnenez. Le genre à payer des coups et à dire des mensonges. Surtout à propos du maire, Daniel Le Flanchec. Des hommes venus de la capitale. On dit même qu'ils sont armés, mais les hommes de Régnier sont pris au dépourvu. Il n'y a plus que des rouges dans cette ville, rapporte-t-il à leur chef. C'est pas compliqué, ces peines sardines s'inscrivent par centaines tous les jours au Parti communiste chez cette Lucie Colliard, une institutrice devenue co-secrétaire de l'Internationale des femmes. Une vraie rouge qui mène la danse avec le flanchec. Noël 1924 en est un bon exemple. Les dons venus de toute la France ont alimenté les caisses de grève. Et le Père Noël n'a pas oublié les enfants. Dans la famille Kergoat, les cris de joie des 9 enfants ont retenti comme dans la plupart des foyers qui peuplent les ruelles étroites du Rosmeur en contrebas de la ville. Chevaux à bascule, poupées en chiffon, ballons, toupies, tout a été réparti entre les familles des Pensardines. Et le Père Noël n'a pas oublié les estomacs non plus. Les pêcheurs sont sortis dans la baie et ont ramené de quoi offrir un repas aux milliers de grévistes, avec ce qui est gratuit et à portée de main, le poisson. Même les agriculteurs de la région soutiennent la grève. Pommes de terre et légumes d'hiver arrivent par charrette entière sur les places de Douarnéné. L'esprit de Noël a une saveur particulière en cette fin 1924, celui de la solidarité. Les casseurs de grève descendus de Paris sont désormais bien connus à Douarnéné. Tellement bien connus que les grévistes les attendent à l'hôtel où ils se sont installés. Le comité d'accueil qu'on leur réserve un beau matin de décembre les oblige à être exfiltrés par la police de Douarnéné face à une foule désormais prête à en découdre avec ses hommes de main. La violence est latente dans la ville. Elle ne demande qu'à exploser. Joséphine Pancalet met en garde ses consoeurs. Attention, ces hommes, ces briseurs de grève sont armés. Les autres femmes confirment, comme la jeune Marie. J'en ai vu un avec un pistolet, j'en suis sûr. Il observait l'institutrice, la grande Lucie Colliard, alors qu'elle prenait les inscriptions au Parti communiste sur la cale du Rosmeur. Les patrons ne s'avouent pas vaincus. Ils ont réussi à débaucher des ouvriers et des ouvrières venus d'autres régions pour tenter de faire tourner les conserveries malgré tout. Mais des piquets de grève s'organisent devant les usines pour empêcher ces « jaunes », comme on les appelle, d'entrer. Les gendarmes les protègent. Des heurts éclatent entre jaunes et grévistes. Les marins défendent les sardinières. Des bagarres rangées ont lieu à la conserverie Chancerelle ou encore chez Carnot. Et le sang coule sur les pavés de Douarnéné. Le maire, Daniel Le Flanchec, s'interpose face aux gendarmes qui chargent la foule des Pensardines et des marins. Ce geste lui vaut d'être révoqué. Sur le port, les barrages de Pensardines organisés par les syndicalistes filtrent et surveillent la sortie des bateaux dans la baie. Le poisson pêché va aux grévistes et à leurs familles. Rien pour les conserveries. Un véritable blocus des trois ports de la ville est mis en place. Le ministre du Travail est excédé par l'attitude des patrons. Comment défendre ce Béziers et sa clique de patrons? Payer ces femmes 80 centimes de l'heure, c'est indéfendable. Non mais qu'est-ce qu'ils attendent pour négocier? Des morts? Ou bien que Douarnéné se transforme en soviète comme en Russie? Ah, ils l'auront bien cherché. Et le ministre ne croit pas si bien dire. Malgré l'hiver extrêmement rigoureux de cette année, les esprits continuent de s'échauffer. L'ardeur ne retombe pas malgré la pluie, le froid et l'humidité qui se sont emparés de Douarnéné. Une effervescence anormale a gagné les rues en cette fin décembre. Les journalistes descendus de la capitale relatent les incidents au jour le jour. La ville et ses ouvrières en grève font la une de la presse française. Béziers est désormais un patron qui a peur. Il a beau scander que c'est lui qui a fait de Douarnenez ce qu'elle est aujourd'hui, une ville industrielle de premier plan, il ose à peine sortir de chez lui. On lui rapporte que les Pensardines ont promis de le pendre au lustre de son hall d'entrée. Et cet imbécile de Régnier ne fait rien, songe le patron furieux. Ces hommes sont incapables de faire régner l'ordre. Aucun piquet de grève où ils ne se font pas attendre. Oh, des briseurs de grève, tu parles, ouais. Ne rien lâcher, surtout ne rien lâcher, intime-t-il aux autres patrons, réunis dans son salon enfumé par les cigares qu'on triture nerveusement. Dans l'assemblée, on le sait, c'est un modèle économique très profitable qui risque de s'effondrer, parce que fondé sur une main-d'œuvre de femme. Et qui dit femme, dit salaire dérisoire. Qui dit salaire dérisoire, dit profit maximum. Oui, il faut tenir, renchérit Le Guen, et ne pas plier comme à la conserverie de la veuve Quérault, où la patronne a accordé tout ce que les sardinières demandaient. Oui, sans doute, mais la patronne est une femme, et elle n'occupe qu'une petite dizaine d'ouvrières. Voilà bien le sentimentalisme féminin, le coupe-baisier. Mais c'est une exception, martèle-t-il. Chacune de nos conserveries emploie des dizaines, voire des centaines d'ouvrières. Si l'un de nous leur donne ce qu'elles veulent, ce sera l'effet domino, conclut Béziers, vidant son cognac d'un trait et reposant son verre d'un geste sec sur la table en bois d'acajou. Après Noël, le nouvel an approche et dans les foyers des sardinières, on se demande ce que va réserver cette année 1925. Tout le petit monde des Pensardines, de la fille à la grand-mère, n'a pas oublié d'aller à la messe confesser leurs inquiétudes et leurs doutes auprès de la Sainte Institution. Elles ont beau s'inscrire au Parti communiste, les sardinières n'en restent pas moins de ferventes catholiques. Est-ce que tout là-haut, on entend leurs revendications? Voit-on que leur lutte est juste? Ou alors est-il écrit qu'elles doivent vivre de façon aussi misérable? La jeune Marie s'est surprise à maudire le prêtre qui l'a mise en garde contre les idées révolutionnaires véhiculées par ces « étrangers », comme on appelle les membres du Parti communiste. Le même langage que les patrons dans la bouche des représentants de Dieu. C'est incroyable. Le prêtre a même dit lors de son sermon que les ouvrières se laissaient manipuler par les rouges. Tout ça à l'office du dimanche, quand toute la ville est réunie à l'église. Dans l'assemblée, on a murmuré, chose qui n'était jamais arrivée. Le prêtre a prié pour un retour au calme et surtout un retour au travail. Mais une fois l'office terminé sur la place de l'église, Joséphine Pancalet n'a pas hésité à dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi le prêtre prend-il le parti des patrons et pas des ouvrières? Le trouble s'est emparé des esprits. Que représente-t-elle aux yeux de l'Église? Même si le clergé n'ose pas l'avouer, elles valent moins que les patrons. Pourtant, elles ne sont pas moins catholiques qu'eux. La confiance envers l'Église catholique est sérieusement ébranlée dans les rangs des ouvrières et des ouvriers de la mer. Mais la foi, dans les jours meilleurs, est toujours là. La nouvelle année arrive et la lutte continue. 6 semaines que le bras de fer avec le patronat dure. 6 semaines sans la moindre négociation entre les deux parties. Pas à cause des sardinières, mais bien de l'intransigeance du patronat. Le 3 janvier, la pêche réembauche pour la sardine. Mais les patrons comprennent très vite que les marins ne reprendront pas la mer. À cause de qui? À cause de ces satanés communistes et de ces syndicalistes qui font des Pensardines des martyrs aux yeux de la France tout entière. Ils pensaient faire plier le mouvement de grève, mais le refus des patrons de négocier les a menés à une impasse. Les caisses de grève et les soutiens organisés par les syndicats et le Parti communiste permettent aux grévistes d'échapper à la famine. Alors que c'est bien là-dessus que comptaient les patrons, les acculer et ne pas leur laisser le choix. À présent, la situation semble s'être inversée. Thank you. Tout cela aurait pu se résumer à une petite colère d'ouvrière perdue au fin fond du Finistère dont personne n'aurait jamais entendu parler s'il n'y avait pas eu ce Daniel Le Flanchec. C'est lui parmi les premiers à les avoir soutenus. À présent, il n'hésite plus à prendre la parole en compagnie de l'institutrice, comme on appelle cette Lucie Colliard, ou encore de Charles Tillon, ce rouge, ce syndicaliste. On les voit chanter l'International ensemble, le chant des luttes ouvrières. Le café L'Aurore est le principal lieu de réunion du comité de grève. On organise, on planifie et puis on s'exprime. L'un des ténors n'est autre que le maire en personne, Daniel Le Flanchec. Il prend régulièrement la parole. Élu depuis quelques mois et déjà révoqué, ce maire complètement atypique est devenu la bête noire du patronat et des briseurs de grève. Un vrai danger même. Il est désormais à la tête d'une véritable révolte ouvrière. Des milliers de grévistes, désormais organisés et solidaires. Le soir du premier jour de l'an 1925, Le Flanchec, accompagné de son neveu, arpente les rues de Douarnenez plongées dans l'obscurité de janvier. Un vent froid et mauvais s'engouffre dans les ruelles de la ville. Il croise des ombres qui les saluent et lève le poing en signe de la victoire. Il se dirige d'un pas rapide vers la clameur de plus en plus proche. Le café de l'Aurore. Mais avant d'entrer, le neveu retient son oncle par la manche. « Il y a des briseurs de grève à l'intérieur, mon oncle. »« Et alors ?» répond Le Flanchec. « On va leur chanter l'International. Je suis certain que quand ils rentreront à Paris, ils la connaîtront par cœur, » plaisante-t-il avant de pousser son neveu par le coude dans l'établissement. Le café de l'Aurore ne désemplit jamais. Du soir au matin, on chante, on discute. On partage les dernières informations. Ce soir ne faillit pas à son habitude. Malgré les gueules de bois du réveillon, le café est plein à craquer. Dans un coin, quelques jaunes, qu'on préfère ne pas regarder, tant qu'ils ne font pas les méchants. Dans les volutes de cigarettes, on les discerne à peine. Le Flanchec n'est pas du genre à chercher la violence. Au contraire, il s'est toujours interposé entre les grévistes et les gendarmes quand ces derniers chargent et piétinent aveuglément femmes, vieillards et enfants. Mais jamais de représailles, il le sait. C'est pas comme ça qu'ils gagneront. Et ces briseurs de grève ont compris qu'ils ont perdu la partie. Qu'ils boivent leur chouchène dans leur coin. Oh, bientôt, ils repartiront vers Paris. Comme toujours. Le Flanchec est accueilli en héros parmi l'assemblée. On s'écarte pour le laisser arriver au bar. Il serre des mains. Il refuse les bières qu'on lui tend. Il ne refuse pas une cigarette, même si son unique œil est irrité par la fumée du tabac. Un véritable nuage qui s'échappe par les fenêtres, qu'on a laissées ouvertes malgré le froid humide qui remonte de la rade. On boit aussi et on chante surtout. Bientôt arrivera le grand moment. Celui où le maire entonnera l'International. Mais du côté de la porte d'entrée, on se bouscule. Ce sont d'autres briseurs de grève qui essaient de se frayer un passage parmi la foule des grévistes. Ils sont armés et passablement ivres. Ils se joignent aux autres déjà présents. Même s'ils sont en minorité, ils toisent l'assemblée de grévistes d'un air mauvais. Les marins ne peuvent s'empêcher de les chambrer. Pourquoi ne viennent-ils pas chanter avec eux, au lieu de rester dans leur coin? Pourquoi? Vous allez chanter la Marseillaise? Ricane l'un d'eux. À mon avis, ils la connaissent même pas, plaisante un autre. Non, vous savez juste chanter l'International et vos chants bouseux, éructe celui qui a l'air d'être leur chef. Camarade, camarade, clame Le Flanchec. « Sache que l'International a été écrite par nos valeureux ancêtres lors de la Commune de Paris en 1871. Au cas où tu insinuerais que ce mouvement de grève serait téléguidé par une instance étrangère, ce poème est français et il est universel. Il est celui des damnés de la terre. Ne vois-tu pas qu'il n'y a que des ouvriers ici? victime d'une injustice sociale commise par le patronat qui te rétribue? Ah, ce patronat a beau jeu de parler de communistes et terroristes dès qu'il s'agit de revendiquer 1,25 francs de l'heure pour ne pas crever de faim. Les derniers mots du maire sont accueillis par une ovation de la foule. Mais le petit groupe de briseurs de grève s'est levé et s'approche de lui. Ils ont sorti leurs armes. Dans la foule, on s'écarte. La haine se lit dans les yeux de ces hommes de main. « Tu vas arrêter de gueuler ton international, le Flanchec, sinon je te fais taire définitivement. Toi et tes satanées bonnes femmes, vous allez finir par le regretter. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elles font encore ici à cette heure ?»« Elles prennent la parole, camarade !» lui crie Joséphine Pancalet. « Elles luttent pour leur dignité, camarade, leur dignité !»« Vous, les sardinières, les peines sardines, ne m'appelez plus jamais camarade. Jamais, vous entendez ?» les menace-t-il de son arme. Le Flanchec connaît ce genre de situation. Il a été soldat dans la Grande Guerre, la dernière injustice à laquelle il aura participé, s'est-il juré, après s'être tatoué mort aux vaches. Oh non, il n'a pas peur, non. Il est même monté sur le bar. De là, il entonne l'international, reprise en chœur par toute l'assemblée. Son neveu tente de le dissuader, mais... c'est trop tard. Les briseurs de grève tirent sur le maire de Douarnenez presque à bout portant. Le Flanchec s'écroule. D'autres tirs s'ensuivent. C'est la panique générale. Le neveu du maire tombe à son tour, blessé à la tête. Les briseurs de grève profitent de la bousculade pour s'enfuir. Quand la fumée s'estompe, 5 corps gisent au sol dans le sang. Les bris de verre et les mégots de cigarettes. Toute la ville se réveille à la terrible nouvelle. Le Flanchec est mort. Son neveu a été très gravement blessé à la tête. 3 autres marins ont aussi été emmenés à l'hôpital de Quimper. On sait où sont les briseurs de grève. Ils sont à l'Hôtel de France. La foule de grévistes envahit le bâtiment et le met à sac. Mais la gendarmerie intervient. Elle protège les criminels. La situation risque de dégénérer en lynchage. Les gendarmes à cheval sont armés et prêts à charger. Mais les peines sardines et les marins de Douarnenez ont l'avantage du nombre. Plusieurs milliers. Ils promettent de s'en prendre aussi aux maisons des patrons, désormais vus comme des assassins. Heureusement, les dirigeantes du comité de grève appellent au calme. Les grévistes obéissent et quittent les lieux, non sans avoir retrouvé dans la chambre de l'un des briseurs de grève un chèque signé par un patron d'usine. La situation reste proche de l'insurrection générale dans la ville. René Béziers est atterré par la nouvelle. « Ces imbéciles ont tué Daniel Le Flanchec, le maire de Douarnenez. » Désormais, les sardinières ont leur martyr. Dans l'Humanité, l'un des grands quotidiens communistes de l'époque en titre même à Douarnenez. Première flaque de sang fasciste, le patronat de Douarnenez fait assassiner les grévistes. Béziers fait quitter la ville aux briseurs de grève en toute hâte. Mais il est trop tard. Les preuves et les témoignages sont là, accablants. Heureusement pour eux et pour les sardinières, une excellente nouvelle arrive de l'hôpital de Quimper. Daniel Le Flanchec n'est pas mort. La balle qui lui a traversé la gorge ne l'a pas tué. Si ce n'est sa voix, elle a complètement changé, déclare Joséphine Pancalet. On dirait celle d'un autre. Mais je vous rassure tout de suite, continue-t-elle. C'est toujours bien notre mère. Il tenait à peine debout qu'il voulait déjà reprendre la lutte. Un miracle. Dans la grisaille de ce mois de janvier 1925. Les autres marins blessés finiront aussi par s'en sortir. Le neveu du maire, lui, gardera des séquelles irréversibles. Son cerveau a été gravement endommagé. Le patronat n'a plus d'autre choix. Face à ces sardinières, ces simples femmes, toujours méprisées, Béziers et les autres vont devoir s'asseoir à la table des négociations. Le seul moyen aussi de faire oublier la fusillade au bar de l'Aurore. Du moins, de la mettre sous le tapis quelque temps. Il faut dire que les grands patrons n'ont pas que les peines sardines face à eux. Le ministre du Travail aussi en a plus qu'assez de leur intransigeance. Le 6 janvier 1925 est un jour qui fera date dans la lutte ouvrière. Douarnenez est vide. Un vent froid fait tanguer légèrement les bateaux de pêche à l'ancre face au port du Rosmeur, Tréboul et le port Rue. Les deux autres ports de la ville sont également déserts. Un calme inhabituel, après des semaines de chants rythmés par le bruit des sabots des sardinières. Il n'y a guère que les cris des mouettes et des goélands, excédés par des semaines de disette, qui résonnent ce matin-là. Plus le moindre reste de sardines à se mettre sous le bec. Le silence règne dans les ruelles et les impasses, normalement si animées par tout un peuple de marins et d'ouvrières de la mer. Si on cherche les sardinières, il faut remonter vers la place de la mairie. Un océan de bonnets blancs, ceux des peines sardines, a envahi la place et les rues autour du bâtiment officiel. Elles sont accompagnées par leurs hommes, qui les ont soutenues dans ce bras de fer de 6 semaines. Dans cette foule compacte, on murmure. On attend le verdict des négociations avec le patronat, réuni par le sous-préfet de Quimper, lui-même mandaté par le ministre du Travail. Vers midi, la grande porte de la mairie s'ouvre. Les représentantes des peines sardines, accompagnées par les délégués syndicaux, se campent en haut des marches de la mairie, face à la foule, dans un silence absolu. Le suspense est devenu insupportable, après des heures de négociations dont rien n'a filtré. Mais quand elles brandissent le poing droit en signe de victoire, une immense clameur envahit la foule. Les larmes coulent tandis que les sardinières entonnent en chœur l'International. Ce qu'on appellera l'accord de Douarnenez est signé. Les sardinières ont tenu bon et ont obtenu tout ce qu'elles voulaient, à commencer par la dignité, celle d'être payées 1 franc de l'heure. Les heures supplémentaires et le travail de nuit seront majorés de 50%. Les hommes, eux, seront payés 1 franc 50. Cet accord de Douarnenez, arraché grâce à la ténacité de ces femmes, de ces peines sardines, va marquer durablement le monde ouvrier et l'industrie de la pêche en Bretagne. Petit à petit, les autres ouvrières et ouvriers du littoral vont faire valoir l'accord de Douarnenez pour obtenir un salaire décent. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Dominique Reding et à la collaboration des équipes de LDV Productions.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.